C'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the children.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe Sensée.
Soyons héroïques, que diable ! Thème d'un concert de l'Orchestre de Douai, région Hauts-de-France, avec au programme la symphonie numéro 3, dite héroïque, de Ludwig van Beethoven, et la création européenne du concerto héroïque pour saxophone, alto et orchestre de Richard Dubugnon. Un concert avec Michel Supera, saxophoniste solo, et Maxime Tortelier à la direction de l'Orchestre de Douai. Maxime, bonjour.
Bonjour.
Michel, bonjour.
Bonjour.
Maxime, vous êtes chef d'orchestre, vous allez diriger l'Orchestre de Douai dans un programme sous le titre « Soyons héroïques ». On va parler de ce programme, mais avant, peut-être faire connaissance. Vous avez des affinités particulières, j'ai cru comprendre, avec l'Angleterre, la Grande-Bretagne, vous avez parcouru le monde, mais avant tout ça, qu'est-ce qui vous amène à la musique ? C'est vraiment dans la famille que ça se joue ?
Dans un premier temps, oui, je ne peux pas le nier, je suis vraiment né dans la musique, avec un père violoniste et chef d'orchestre. Il faisait encore du violon quand j'étais petit, avant de se consacrer à plein temps à la direction d'orchestre. Mais donc j'ai entendu le violon de mon père à la maison jusqu'à mes 10-11 ans environ. À cet âge-là, j'avais justement déjà déménagé avec mes parents et mon frère en Angleterre, à Londres. Et ça ne s'arrête pas là, puisque mes grands-parents, ma tante, enfin, étaient ou sont, selon les cas, musiciens, professionnels. Mon grand-père, Paul Tortelier, violoncelliste, je l'ai connu jusqu'à mes 10 ans et j'ai eu la chance d'avoir quelques leçons de musique qui avec lui étaient bien plus que des leçons de musique, étaient des leçons de vie déjà, de philosophie malgré mon jeune âge. Mon grand-père m'encourageait déjà à voir le monde d'une certaine façon et à le traduire dans mon jeu au piano, puisque j'apprenais le piano. J'avais 10 ans quand il est décédé. Je l'ai connu trop peu, malheureusement, mais enfin, j'ai quand même des souvenirs très marquants. Et puis, ma grand-mère, je l'ai violoncelliste, Maude Tortelier, j'ai eu la chance de la connaître jusqu'à un âge très avancé. Hein. Et puis, ma tante, Paou, pianiste, je la vois encore régulièrement à Paris. Donc, il y a beaucoup de musique dans mon parcours.
Cette famille-là, c'est quoi ? C'est un héritage ou ça peut paraître, peut-être même parfois, peut-être un fardeau ? Parce que pas évident à porter, à prendre le relais, avec peut-être la crainte de ne pas être à la hauteur.
Oui, les deux, mon capitaine, héritage et fardeau, peut-être dans une égale mesure. Après, selon la période de mon parcours, je ressens plutôt l'un ou plutôt l'autre. Mais si j'essaye de retracer un peu la chronologie, après une première phase d'émerveillement devant toute cette musique merveilleuse qui se jouait autour de moi, quand il a été question de vraiment pousser la musique à mon tour à un stade élevé, là tout d'un coup j'ai ressenti la pression. Donc ça c'était vers l'âge de 11 ans, quand mon père m'a fait savoir que si je voulais vraiment pousser la musique, fallait être sérieux, fallait travailler des heures et des heures, et fallait aussi aller voir des profs encore plus sérieux et puis réputés. C'est, en Angleterre, ça m'a beaucoup intimidé. Donc bon, ça coïncide avec, comme par hasard, avec la phase un peu de la préadolescence, début de l'adolescence. Donc ça s'est conjugué avec une appréhension et un rejet un peu de cet héritage qui n'a été que temporaire. En fait, quelques années où j'ai mis cet héritage un peu en veilleuse, je me suis mis à ne faire du piano que pour le plaisir, à accompagner des amis qui poussaient un peu la chansonnette. Et puis c'est moi qui ai eu soif de répertoire et puis de à nouveau pousser la musique un peu plus loin. Donc j'ai repris des cours de façon sérieuse. Après ça, j'ai quand même pas transformé l'essai parce que je suis allé faire des études supérieures, non pas musicales dans un premier temps, mais littéraires et linguistiques. Et là, mon anglophilie, ma culture anglophile, elle est revenue au galop et j'ai vraiment voulu pousser les études d'anglais très loin. Alors voilà, je suis allé jusqu'à l'agrégation, j'ai fait des séjours à l'étranger, je suis allé aux États-Unis. Et puis, à nouveau, la musique est venue frapper à la porte et j'ai eu un manque de musique. Donc, je me suis tourné une deuxième fois vers la musique via les classes d'érudition du conservatoire, via l'histoire de la musique, la musicologie. Et tout ça, ça a fait un cocktail qui a mené petit à petit à la direction. Le piano, toutes les disciplines théoriques, ça s'est concentré vers la direction d'orchestre que je suis allé apprendre à Londres.
Vous aimez apprendre ?
Oui, c'est un peu le problème. J'aime beaucoup apprendre et j'aime beaucoup apprendre beaucoup de choses. C'est pour ça que la phase d'apprentissage a été assez longue chez moi. J'ai essayé beaucoup de choses. J'ai même fait un petit peu de théâtre. Enfin, bon, j'ai mélangé plein d'activités avec beaucoup de bonheur et j'ai mis du temps à trouver ma voie, ma spécialité. Mais par bonheur, je pense que la direction d'orchestre fait partie de ces métier ou activité qu'on continue d'apprendre jusqu'au dernier temps qu'on donne avant de mourir.
Vous avez dit, la famille, notamment mon grand-père, m'a appris à avoir par la musique une vision du monde. C'est quoi que d'avoir une vision du monde par la musique ?
Le souvenir que j'ai, c'est d'affirmer une certaine individualité par le jeu musical, parce que j'étais en train de travailler un rondo de Haydn, tout ce qu'il y a de plus classique, carré, et je pense que voilà, mon grand-père m'écoutait jouer et ça n'allait pas plus loin, mon jeu n'allait pas plus loin qu'une représentation assez littérale des notes qui étaient devant moi sur la partition. C'était à peu près propre solfégiquement, rythmiquement, mais évidemment ça manquait d'individualité, de caractère, et c'est là que mon grand-père essayait de me dire mais toi, qu'est-ce que tu veux dire avec cette musique, ou à ton avis cette musique, qu'est-ce qu'elle veut dire à cet endroit-là, est-ce qu'il n'y a pas un message, est-ce que c'est drôle, est-ce que c'est triste, est-ce que là tu as envie peut-être de respirer, de prendre du temps, et ça, bon, ce sont des considérations musical, mais très vite il les élargissait en disant, tu vois, tu dois être comme ça dans la vie, tu ne dois pas te contenter de faire comme les autres, de faire les mêmes mouvements que les autres, de répéter les mêmes choses que les autres, il faut que tu trouves ta voix avec les deux orthographes possibles. Et à la fin, je me souviens, il me dit, tu as bien compris, ou il cherchait mon assentiment. Alors je lui ai dit, d'accord. Et il m'a dit, bah, tu vois, tu viens de dire d'accord. Tout le monde dit « d'accord », c'est pas très joli comme mot « d'accord ». Essaye de trouver une phrase qui te soit propre ou change « ok, d'accord », c'est pas des phrases qui sont très jolies. Donc tout de suite, il mettait en relation avec le quotidien et avec la vie en général ce qu'il voulait faire passer dans la musique.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe Sensé.
Rencontre avec le chef d'orchestre Maxime Tortelier et le saxophoniste Michel Supera à l'occasion du concert Soyons héroïques que diable, proposé par l'orchestre de Douai. Tout de suite, faisons connaissance avec Michel Supera, saxophoniste.
J'ai vécu toute mon enfance à Saint-Lenoble, Donc voilà, je suis allé au collège, etc., aux écoles de Saint-Lenoble, ensuite à Douai, et j'ai fait mes études de musique à Douai. Mais avant, j'ai commencé la musique en fait grâce à mon père, qui était musicien amateur. Et il m'emmenait régulièrement à l'orchestre d'harmonie, parce qu'il jouait à l'orchestre d'harmonie, ici dans le Douaisis. Et après l'apprentissage de quelques années de solfège, voilà, on m'a suggéré d'aller chercher un instrument de musique, parce qu'il fallait renforcer, entre guillemets, les rangs de l'orchestre d'harmonie. Et donc j'ai ouvert un premier étui. C'est pas une romance, hein, c'est pas du tout romancé ce que je veux dire. J'ai ouvert un étui, et en fait il y avait un saxophone, et je suis tombé sous le charme de cet instrument, qui était beau, qui avait une belle forme, qui brillait. Et j'ai commencé l'instrument avec un monsieur qui était saxophoniste au sein de l'orchestre d'harmonie. Et rapidement, il a dit à mon père, bon, écoute, mon père s'appelait Richard, et il lui a dit, écoute Richard, j'ai plus grand-chose à lui apprendre, il faudrait que ton fils aille au conservatoire. Donc très jeune, on avait des tests d'entrée pour entrer au conservatoire, on rentrait pas comme ça. Et puis j'ai fait un parcours au conservatoire de Douai, traditionnel. Et ensuite, j'ai rencontré une belle personne qui était Michel Nouveau, qui était le soliste aux orchestres de la garde républicaine, qui m'a en fait, qui était un petit peu mon père spirituel pour la musique, pour le saxophone, qui m'a vraiment accompagné avant les études supérieures. Et je suis rentré donc au Conservatoire de Paris. J'y ai passé quelques années, en ayant après obtenu les prix d'instruments, de musique de chambre, etc. Et puis, par ailleurs, j'ai une activité aussi d'enseignant. Puisque depuis, on va dire, d'une façon à temps complet, j'enseigne maintenant le saxophone au conservatoire depuis 3 ans ici. Donc en fait, j'ai pas mal voyagé, mais j'ai toujours gardé ces attaches avec la ville de Douai, l'orchestre et puis le conservatoire.
Le saxophone, ça fait partie de la famille des bois. C'est pas intuitif ça.
Alors, pourquoi ça fait partie de la famille des bois? Parce que tout simplement, alors effectivement, c'est en métal, on ne va pas rentrer dans les détails de la composition d'instruments, mais en fait, il y a ce fameux, on a le bec et on a cette fameuse hanche qui est à peu près la même que sur la clarinette. Et donc, voilà, ça rejoint la famille des bois parce qu'on a une hanche au saxophone qui, avec le souffle, permet de vibrer, de battre contre le bec, et grâce à ça, on obtient le son du saxophone.
Et qui ne figure dans l'orchestre que si la composition le réclame. C'est pas l'instrument que l'on trouve dans une composition ordinaire d'un orchestre, d'un ensemble classique ou philharmonique.
Alors voilà, ça c'est un gros problème pour nous, franchement. Parce que en ayant lu l'histoire, etc., de ce bel instrument, en fait, il faut savoir que, en fait, Adolphe Sax, donc le monsieur qui a inventé le saxophone, était un grand ami d'Hector Berlioz. Et Berlioz a bien fait un traité d'orchestre. Et donc, en fait, ne parle pas du tout du saxophone. Ce qui est complètement aberrant, parce qu'ils passaient sûrement beaucoup de soirées ensemble. Berlioz défendait Adolphe Sax et cet instrument auprès de tous ses amis compositeurs, critiques et autres. Et le saxophone ne figure pas dans ce traité d'orchestration. Et en fait, si je comprends bien, beaucoup de compositeurs, se réfèrent à ce traité d'orchestration. Donc finalement, n'inclut pas le saxophone. Alors évidemment, on a quelques compositeurs quand même contemporains qui l'incluent, parce qu'ils sont assez attirés par le son, par les possibilités de l'instrument. Mais on en est encore là. Mais j'espère que ça va changer encore.
Ça veut dire que vous n'aviez pas dans l'esprit la vocation d'intégrer un orchestre en choisissant cet instrument, ou ça, vous l'avez juste découvert après?
En fait, j'ai fait le saxophone parce que, comme je disais au début, c'est un instrument qui m'a beaucoup plu. Et en fait, c'était aussi de jouer avec les autres. Donc l'orchestre d'harmonie faisait partie de mon quotidien, puisque on se voyait souvent avec les copains en dehors des répétitions. Et c'était le fait d'échanger. Alors après, effectivement, quand on suit les études, on se dit, ah ben mince, on ne peut pas spécialement intégrer l'orchestre, malheureusement. Donc on prend son bâton de pèlerin et puis on va régulièrement solliciter les compositeurs, les chefs d'orchestre, les administrateurs, etc. pour leur dire, le saxophone existe, intégrez-nous dans vos programmations.
Et c'est en partie pour ça ou pas que le saxophone a trouvé refuge peut-être dans plutôt une musique jazz-pop?
de toutes les façons, on a cette histoire. Donc effectivement, Adolphe Sax a beaucoup œuvré quand même pour le répertoire. Donc il y a quand même eu des choses. Effectivement, il a été découvert aussi par, comme vous disiez, par Bizet, Ravel, etc. Et des compositeurs se sont vraiment penchés sur cet instrument. Et ensuite, donc il y a eu une période un peu creuse, mais c'était aussi lié à l'histoire des événements mondiaux avec la guerre, etc. Donc l'instrument a été un peu mis de côté. On a, faut juste savoir que par le métal, on a utilisé l'instrument pour fabriquer des cartouches, etc. Donc ça, au bout d'un moment, tout ce qui était instrument en métal a été mis de côté. Donc, et le saxophone, finalement, ça a voyagé, ça a passé l'Atlantique, c'est arrivé aux États-Unis. Et là, il y avait effectivement des musiciens de jazz qui ont découvert cet instrument par ses possibilités, on va dire, de rondeur de son, ses facilités techniques, digitales, etc. Beaucoup de clarinettistes ou même de trombonistes se sont penchés sur cet instrument, ont finalement changé d'instrument pour utiliser le saxophone par ses diverses possibilités. Et le jazz a effectivement remis, on va dire, en lumière l'instrument, oui, oui. Et petit à petit, bon, les choses se sont un petit peu posées en Europe, et puis différents compositeurs ont commencé à écrire pour l'instrument, mais c'est quand même pas chose gagnée.
On sait hein, l'importance, ici, dans notre culture et notre histoire, des fanfares, des harmonies. En quoi l'apprentissage est différent quand on arrive ici, au conservatoire à Douai? C'est véritablement une autre approche?
En fait, c'est pas vraiment une autre approche. En fait, moi, ce que j'ai vécu, de toutes les façons, il y avait... parce que souvent, on peut peut-être hiérarchiser les choses en disant on est dans une école de musique ou on est dans un orchestre d'harmonie. Mais je veux dire, je pense que c'est aussi... il y a une exigence dans la pratique instrumentale, dans l'apprentissage. Et en fait, moi, c'était une continuité. La seule différence, c'est qu'effectivement, de ce que j'ai vécu, c'était vraiment lié à une pratique amateur. Donc, d'une façon très juste, la personne qui m'avait donné les premières approches de l'instrument avaient ses limites. Au conservatoire, on avait poussé un peu plus l'apprentissage, etc. Donc c'était une évolution. Mais je pense que de toutes les façons, l'apprentissage est pratiquement le même à partir du moment où on a les exigences, qu'il soit dans une école de musique, dans un conservatoire, etc. Sauf que dans un conservatoire, on a peut-être plus de moyens, on a des personnes qui se sont un peu plus spécialisées, qui peuvent vous emmener plus loin dans votre parcours, on va dire.
C'est pour un programme Soyons héroïques que diable que l'orchestre de Douai Région Hauts-de-France accueille le chef d'orchestre Maxime Tortelier et propose à Michel Supera d'être saxophoniste pour la création européenne du concerto héroïque pour saxophone, alto et orchestre de Richard Dubugnon. Rencontre avec les deux musiciens.
Ces rencontres-là, c'est toujours assez intense parce que quand on arrive pour la première fois devant un orchestre, on sait qu'on va vivre des moments assez, assez intenses et que tout ça, c'est assez, assez ramassé dans le temps parce qu'on a un emploi du temps qui est assez serré, 4 ou 5 répétitions. Et avec ces répétitions, il faut, avec des personnes qu'on rencontre pour la toute première fois, faire un peu communion, trouver une harmonie, une symbiose et arriver à emmener tout le monde dans la même direction. Alors c'est forcément intense, chargé en énergie, beaucoup d'énergie, chargé en émotion aussi selon le répertoire. Et il n'y a pas beaucoup de temps à perdre, il faut optimiser son temps. Donc bon, il y a tout le travail en amont et quand on arrive pour la première fois... passer quelques mots d'introduction, il faut très très vite se mettre... C'est un petit peu presque pas très naturel parce qu'il faut assez rapidement se mettre, retrousser les manches et foncer dans le tas et vraiment aller dans le vif du sujet. Et c'est pas comme rencontrer quelqu'un autour d'un apéritif où on a vraiment le temps de faire connaissance, etc. On fait connaissance... par l'intermédiaire de la musique et avec un peu de chance, en échangeant des regards pendant le jeu instrumental et le jeu orchestral, et puis le cas échéant, en s'arrêtant et en s'adressant à tel ou tel pupitre pour demander des choses. Et c'est là que le facteur humain joue, intervient. Et une relation se crée petit à petit dans ces premiers instants.
Que d'avoir le même langage, celui de la musique, n'est pas suffisant à forcément immédiatement faire comprendre une intention.
Malheureusement, pas toujours. L'idéal, c'est toujours d'avoir le moins de choses à dire possible et de communiquer le maximum par le bras, la main, le regard et le corps. Mais aucun chef n'est parfait et on ne peut pas non plus anticiper, justement, quand on rencontre un orchestre pour la première fois, comment un orchestre va réagir à telle corrélation entre geste du chef plus ce que le musicien ou la musicienne a sur la partition. Nous, on arrive avec un peu notre pressenti, comment on pense qu'ils vont réagir, mais parfois on a des surprises. Ah tiens, ils ont ralenti là, je ne sais pas exactement ce que je voulais dire, ou ils ont joué plus fort, ou ils ont eu telle articulation. Et donc, alors il faut soit trouver une autre façon de s'exprimer dans le corps la prochaine fois qu'on joue ce passage, ou que ce passage intervient dans la partition, soit, bon, s'il le faut, prendre la parole et le dire.
En quoi votre direction d'orchestre vous est propre et particulière? C'est quoi la différence que vous allez amener?
C'est un peu la quête d'une vie de chef. En quoi ma direction d'orchestre est différente? J'essaye le plus possible, avec la partition, de me faire une idée de ce que veut dire la partition, de ce que veulent dire les notes, de ce que le compositeur veut, souhaite. Quand le compositeur est vivant, comme c'est le cas de Richard Dubugnon, eh ben on peut s'adresser à lui pour lui poser quelques questions. Et après, devant l'orchestre, c'est une conjugaison de ce que le chef veut faire passer, nourri de tout son travail en amont, et ce que l'orchestre lui donne et ce que le chef entend. Ce qu'il faut, voilà, faire marcher à plein tuyau ses oreilles de chef et réagir vraiment en direct à ce qui nous est donné. Alors, j'ai pas de réponse toute faite sur ce qu'on apporte, mais il faut quand même arriver avec quelque chose à proposer, une proposition musicale, un message. Il faut vraiment savoir ce qu'on veut. On peut pas vraiment se permettre d'expérimenter. Tenez, essayez de jouer ça comme ça. Ah ben non, finalement, non. Là, il faut vraiment savoir ce qu'on veut dès le début, et il faut brancher ses deux oreilles et voir dans quelle mesure ce que l'orchestre fait se rapproche ou non de l'image mentale qu'on a dans la tête du son et de la partition.
Même lorsqu'il s'agit d'œuvres qui sont des classiques du répertoire, tels que la symphonie héroïque.
Ah. Je crois que oui. Je ne sais pas si je dirais ça de la totalité du répertoire classique, mais une symphonie comme la symphonie héroïque, elle peut vraiment partir dans plein de directions. Alors, rien que pour commencer, il y a le choix du tempo pour chaque mouvement. Beethoven nous laisse des indications métronomiques. Mais rien que ça, faut-il les suivre, parce qu'il les a indiquées déjà pas au moment où il a composé cette symphonie. Il a découvert l'invention du métronome de Mälzel. C'était après l'écriture de cette troisième symphonie. Je crois que c'était entre la huitième et la neuvième, si on se repère par rapport aux symphonies. Et il s'est décidé à indiquer pour chacun des mouvements de ces huit symphonies, avant la neuvième, des indications métronomiques. Mais le fait qu'elles aient été données X années après, est-ce que ça leur donne la même valeur d'autorité que toutes les notes qu'il a imprimées et tout le, ce qu'on appelle le paratexte, piano, forte, crescendo, etc. Oui, non, peut-être. Après, il y a les effectifs de l'époque, les effectifs d'aujourd'hui, l'évolution de l'instrument aussi. Alors, rien que ça. Ensuite, même, admettons qu'on ait choisi un tempo de Beethoven. Peut-on ou pas le faire bouger dans le mouvement ? Parce qu'il donne une indication pour 18 minutes de musique. Est-ce qu'on a le droit d'avoir quelques mesures avec un petit peu de flexibilité par-ci, par-là ? Vous voyez, et ça c'est que le début. Vous imaginez tous les autres paramètres, les sons. Alors, évidemment, les grands compositeurs orchestrent généralement très bien et les équilibres sont, dès le départ, plutôt pas mal géré du tout par le compositeur. Mais là-dessus, le chef d'orchestre peut aussi apporter une petite couche d'amélioration en jouant un peu avec les potentiomètres des pupitres et puis en mettant en valeur telle ou telle voix. Une symphonie comme l'Héroïque, il y a tellement de motifs et de cellules qui se baladent partout dans l'orchestre qu'il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire, c'est indéniable.
Alors, on aura bien compris, ces choix, ils sont faits avant, ensuite vous travaillez avec l'orchestre, et pendant l'exécution, vous êtes dans l'instant présent ou en anticipation de ce qui va arriver ? Je me suis toujours posé la question.
Je pense qu'aussi bien en répétition qu'en représentation, il faut toujours avoir un petit degré d'anticipation, un bon degré d'anticipation, mais peut-être qu'au moment de l'exécution, bon, on se donne forcément plus et on se donne à fond. Donc, il y avait un chef qui donnait des masterclass à l'Accademia Chigiana où je suis allé à Sienne les étés, Gianluigi Gelmetti. Il répétait tout le temps « Testa fredda, cuore caldo », donc la tête froide et le cœur chaud. Donc, ça répond un peu à votre question. Donc, la tête froide, c'est celle qui anticipe. Il faut un peu se dupliquer. C'est celle qui anticipe, qui voit venir, qui voit aussi la grande forme, avec des mouvements, le temps long, comme on dit. Et puis, cuore caldo, le cœur chaud, c'est celui qui se donne à fond dans chaque seconde, chaque milliseconde de chaque barre de mesure. Et il faut arriver à être ces deux personnes à la fois au maximum au moment du concert.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe Sensée.
Et c'est donc l'orchestre de Douai, région Hauts-de-France, qui, pour la première fois en Europe, interprétera la création de Richard Dubugnon, le concerto héroïque pour saxophone, alto et orchestre, avec Michel Supérin, saxophoniste solo, qui nous raconte l'histoire de cette création.
Pour l'anecdote, j'ai écouté une création d'Olivier Doise, qui est hautbois solo à l'Orchestre Philharmonique de Radio France, et qui a fait la création donc, d'un concerto de Richard Dubugnon. Pour l'anecdote, Olivier était le fils de M. Doise, qui était en co-direction avec M. Vacher, qui dirigeait l'orchestre il y a quelques années. Bon, bref, et c'est quelqu'un avec qui j'ai passé quelques années d'études, on a partagé quelques années d'études ensemble avec Olivier. Et donc, j'ai découvert la musique de Richard Dubugnon. Et donc, moi qui suis toujours un petit peu à chercher des œuvres nouvelles pour enrichir notre répertoire, vu l'histoire de notre instrument, j'ai pu contacter donc Richard Dubugnon en disant « J'ai entendu un super concerto que vous avez écrit pour Olivier, est-ce que vous avez écrit quelque chose pour saxophone ?»« Ben non, mais je suis en train. » Donc chouette. Un commanditaire était donc musicien japonais qui lui a passé une commande de ce concerto. Je lui dis donc s'il y a possibilité après de pouvoir découvrir cette œuvre, ça m'intéresserait de pouvoir la jouer, etc. Donc voilà, on a gardé contact. Est arrivée la période Covid. Richard a perdu contact avec le commanditaire, m'a envoyé quelques extraits de son œuvre, à savoir si des passages étaient réalisables à l'instrument, etc. Donc on a travaillé sur cette œuvre en direct. Et puis, petit à petit, ben, cette œuvre, en fait, c'est une œuvre qui est... Comme je disais, c'est une œuvre qui marquera le répertoire du saxophone parce que c'est une œuvre qui est très riche, qui utilise vraiment un maximum le côté expressif de l'instrument, le côté rythmique. En fait, il y a aussi un côté, on parlait tout à l'heure du jazz, donc Richard exploite d'une façon assez subtile Il flirte d'une façon assez, assez fine avec le jazz ou le funk sur le troisième mouvement. Le premier mouvement est vraiment quelque chose d'assez, d'assez large, très orchestral aussi, très riche pour l'orchestre. Et il y a un dialogue constant avec, avec le soliste et l'orchestre. Le deuxième mouvement est assez méditatif, très, très, très charmant, très, 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 très chantant. Et voilà, c'est une œuvre très complète qui dure quand même 25 minutes et qui est assez héroïque pour l'instrumentiste et puis pour l'orchestre.
Qui a déjà été jouée ?
Oui, oui, elle a été créée au Japon donc, il y a 2 ans. Et donc là, c'est une première en France, donc même une première européenne. Et donc on a eu la chance d'avoir l'œuvre. On a pu échanger donc avec l'orchestre, savoir s'il était possible de pouvoir la programmer. Cette œuvre donc est programmée cette année et c'est une création française. C'est très noble en fait pour l'orchestre, enfin pour tout le monde, de pouvoir créer cette œuvre ici.
Que d'avoir travaillé en collaboration au moment de son écriture, aujourd'hui que d'aller rencontrer le public, c'est quoi ? C'est un aboutissement ?
Oh ben c'est clair, c'est un aboutissement. C'est-à-dire que on voit déjà pour le compositeur, c'est-à-dire que je connaissais pas spécialement Richard, donc on a échangé, on a parlé par téléphone ou par mail ou par visio, etc. On se connaissait pas, on s'est rencontrés il y a quelque temps après la création de l'œuvre. Et c'est vrai que c'est, je veux dire, on voit tout se construit petit à petit. En fait, c'est voilà, c'est on ajoute les pierres les unes après les autres, et puis là, on va dire, c'est la finale. C'est comme un match de foot, en gros. Il y a toutes les éliminatoires, etc. Et puis on arrive là à vouloir transmettre, en fait, parce qu'il y a quand même une richesse dans l'écriture du Richard. Il y a tout un travail, ça demande énormément de travail pour l'orchestre, pour le chef d'orchestre, pour l'instrumentiste. Donc on va réunir toutes les énergies, toutes les âmes pour proposer quelque chose au public, de faire partager tout ce travail, toute cette passion qu'on a à l'intérieur, à travers l'écriture de Richard. Pour moi, ce sont des moments magiques, en fait.
Quand on crée et qu'on dirige, à ce moment-là, pour la première fois en Europe, une œuvre, c'est quoi ? On a l'impression, en tant que chef d'orchestre, d'être le premier à poser le pied sur une plage vierge, quelque part.
C'est quand même un honneur, un privilège, parce que c'est vrai que dans le milieu de la musique classique, le répertoire déjà écrit, le déjà là, pour parler aussi voilà, un peu la langue d'aujourd'hui, est très représenté. Et donc, des créations, on n'en fait pas forcément toutes les semaines. Alors, je suis très reconnaissant voilà, à l'Orchestre de Douai de m'avoir invité, parce que c'est un honneur. Oui, je ne m'étais pas rendu compte que c'était une première non seulement française, mais européenne, on peut dire. Et en plus, alors, Richard Dubugnon, j'ai eu la chance d'entendre sa musique dans le public à Lyon pour une autre création d'un autre concerto avec une autre connotation vaguement napoléonienne dans le titre. Je pense qu'il n'y a rien de napoléonien dans la musique de ce concerto, mais il a écrit un tombeau de Napoléon, qui est un concerto pour trombone. Et j'ai entendu donc la création de ce concerto et j'ai été séduit tout de suite par sa musique. Et voilà, c'est resté dans un coin de ma tête. Je me suis dit, tiens, je ne connaissais pas avant. Et je me suis dit, j'aimerais bien diriger la musique de ce monsieur un jour. Et ce jour est arrivé. J'ai reçu la partition il y a quelques mois. Et tout de suite, je me suis plongé dedans. Et plus j'avançais dans l'étude de la partition, plus je me régalais et plus je découvrais. C'est comme de déballer un peu un cadeau, quoi. Petit à petit, ah, il y a ça, ah, puis il y a cet élément, il y a ce thème. Et c'est, comme disait Michel, c'est foisonnant. Et c'est très généreux. Trois mouvements, chacun avec son atmosphère. Et puis j'ai pu, dans un deuxième temps, entendre une exécution de ce concerto, je pense que c'était à la création mondiale, et qui vient déjà donner un petit peu corps à ce que j'avais pu avoir dans la tête en étudiant la partition. Alors ça rend encore plus impatient de se confronter à l'œuvre en direct. Et là, juste avant de vous rencontrer, eh bien, on s'est vu avec Michel qui m'a joué sa partie solo. Alors ça a ajouté encore, on se rapproche petit à petit du but, et c'est exactement comme dit Michel, on va arriver à la finale dimanche. Mais avant ça, il y a les répétitions. Et en effet, c'est un concerto très athlétique, très très sportif, on pourrait presque dire que c'est un concerto pour orchestre, hein, parce qu'ils ont, ils ont fort à faire, et on va s'y employer d'ici dimanche.
Aujourd'hui, rencontre avec le chef d'orchestre Maxime Tortelier et le saxophoniste Michel Supera à l'occasion du concert « Soyons héroïques que diable » de l'Orchestre de Douai Région Hauts-de-France. Avec, à l'occasion de ce concert et pour la première fois en Europe, la création du concerto héroïque pour saxophone, alto et orchestre de Richard Dubugnon.
Bravo Douai, parce que voilà, si vous regardez un petit peu le parcours de Richard Dubugnon, il a eu des créations dans le monde entier, à Tokyo, il a un très beau parcours en Angleterre, en Allemagne, en Suisse partout, j'allais dire en Suisse allemande, mais en Suisse tout court, et dans beaucoup de grandes villes, et puis Lyon, je parlais de Lyon. C'est tout à l'honneur de Douai, et puis de Michel, et de tous ceux qui ont œuvré. Je suis arrivé moi un petit peu en tant que pièce rapportée, si vous voulez, un peu tardivement dans le processus, mais avec le plus grand plaisir. Mais tous les acteurs qui ont permis cette création douaisienne peuvent être fiers de leur travail. Et puis je me réjouis que Douai soit l'hôtesse de cette création.
Un orchestre, un conservatoire, des classes à horaires adaptées musique. Pour apprendre la musique, il faut venir à Douai.
Il faut venir qu'à Douai. De toutes les façons, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un magnifique conservatoire, on a un magnifique orchestre qui effectivement s'engage pas simplement dans des reprises, parce que c'est vrai qu'on, de plus en plus, on voit dans le domaine culturel, on marche un tout petit peu sur les œufs, sur les programmations, parce que c'est toujours un peu compliqué, on connaît la situation. Donc là, quelque part, l'orchestre de Douai prend le risque, c'est un risque quand même de, entre guillemets, de rendre des comptes. C'est-à-dire qu'on fait une création, mais est-ce que ça va attirer du public? Ben oui, parce qu'a priori, le public nombreux est attendu. Comment tout ça, ça s'articule avec le conservatoire? Ben, c'est assez fluide pour les disponibilités de salles, pour répéter, etc., etc. Donc, c'est quand même c'est quelque chose d'assez fort, quand vous parliez d'une ville moyenne, mais c'est une ville qui est vraiment engagée. Et il faut continuer. Je pense que si... Hormis le fait que des acteurs politiques peuvent être engagés pour la culture, mais je pense que ce sont aussi les musiciens, ce sont les chefs d'orchestre, ce sont aussi toute une administration qui doit être quelque part aussi, en quelque sorte, une source de proposition pour que justement tout le monde se sente concerné par les nouveautés, par les créations, parce que c'est ça qui fait vivre aussi la culture, c'est ça qui fait vivre la musique, et c'est ça qui nous fait vivre, en fait.
Et puis on va s'intéresser, voilà, aux dernières... invité indispensable, le public, ça vaut une pression supplémentaire d'être ici à domicile ou...
C'est toujours difficile de jouer à domicile. Non, c'est difficile. Non, parce que... c'est toujours un plaisir parce que... Alors effectivement, il y a des personnes, on sait très bien qu'il y a des personnes qui viennent découvrir l'œuvre, mais il y a des personnes que vous connaissez qui sont dans le public, on se sent soutenu quand même. Mais cette salle-là, elle est magique. Acoustiquement, elle est vraiment très, très... C'est très flatteur, c'est très agréable. Les musiciens de l'orchestre sont en majorité tous des copains, des copines. Donc, je veux dire, on partage tous des... On va partager vraiment un très bon moment. Alors ça va être une notion de partage musical, mais... Pour le public, on veut que le public sorte de là avec beaucoup de bonheur, avec beaucoup de joie de vivre, et puis en ayant envie de revenir au prochain concert, en fait.
Comment on fait pour rencontrer un public quand on lui tourne le dos tout le long du concert?
Ah oui, c'est une très bonne question. Le public, on le sent quand même. C'est vrai que le chef, en tant que chef, on lui tourne le dos, mais on le sent qui est là, et on est capable, je ne sais pas comment l'expliquer, mais de mesurer un peu une certaine qualité d'écoute. On peut ou pas se sentir encore davantage porté par une atmosphère, une qualité d'écoute de la part du public, et ça peut contribuer à vraiment un concert qui décolle. Ouais, une impression d'être dans une bulle, le temps du concert ou le temps d'une œuvre ou le temps d'un mouvement. Ça n'arrive pas tout le temps, mais c'est vrai que quand ça se passe, c'est vraiment exceptionnel. Alors, c'est un plus, c'est un bonus, ça ne peut pas arriver tout le temps. Ce sont des moments un peu suspendus, mais vraiment, après, ça crée des souvenirs vraiment impérissables.
Pensez qu'il y a encore un public qui ne s'autorise pas aller au concert quand il s'agit de musique dite classique?
Hélas, oui, encore un peu. Et c'est à nous, justement, de continuer à faire tomber ces quelques barrières qui peuvent encore exister. On touche au sujet des missions, des organisations artistiques comme les orchestres et autres, qui doivent vraiment le plus possible aller à la rencontre de publics plus jeunes, plus éloignés. Et il n'y a que comme ça qu'on continuera à faire tomber des barrières et à faire venir le public vers ce répertoire.
Quand on sait lire la musique, quand on sait l'entendre tel que vous êtes capable de le faire, quand on sait diriger, est-ce que ça vous arrive encore d'être spectateur ému aux larmes?
Ah oui. Ah oui, 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 absolument. Et ça peut être... c'est souvent dans du répertoire classique, je le reconnais. Il y a des œuvres comme ça qui, dans mon cas, j'ai beau les avoir entendues et réentendues, quand on arrive à ce passage un peu magique, un peu suspendu, j'éprouve une émotion qui n'est pas diminuée par... l'habitude ou la connaissance de l'intérieur parce que c'est mon métier. Mais je sais pas si je peux vous citer, mais bon, il y a des œuvres de Strauss, de Beethoven, de Bach, Tchaïkovski, enfin je pourrais en citer plein, mais non, l'émotion, elle est Sibelius, l'émotion elle est intacte. Et oui, aussi bien en tant que spectateur qu'en tant qu'acteur. Même si acteur, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas se laisser submerger par l'émotion, parce qu'on est là aussi, quand on est dedans et qu'on la joue, la musique, on est là pour aller jusqu'au bout. Donc on ne peut pas non plus s'abandonner. Voilà.
Quand on commence la musique, par plaisir, pour être avec le groupe, le plaisir... Aujourd'hui, il reste quelque chose d'indispensable, ça reste un moteur pour pouvoir travailler, parce que c'est un travail que d'être musicien. La question du plaisir, elle est toujours là.
Le plaisir, en fait, ne m'a jamais abandonné. Me concernant, j'ai toujours eu une vie où il y a eu toujours des... Enfin, j'ai eu plein de vies par rapport à mon instrument. Je pense que c'est lié à l'histoire de cet instrument, qui peut aborder différentes esthétiques, différents styles, différents genres. Et ça a toujours les objectifs, la découverte, découvrir un nouveau répertoire, aborder une nouvelle façon de faire évoluer l'instrument, parce qu'on a encore du travail pour l'évolution de cet instrument, qui est un outil en fait, c'est simplement un outil. Donc voilà, ça a toujours été quelque chose qui... Voilà, la notion de plaisir a toujours été là, sous différentes formes, pour justement continuer à se perfectionner. Je pense que, enfin, une vie où il n'y a pas de notion de plaisir, où il n'y a pas de projet, c'est une vie triste, monotone. Donc ce plaisir, il est lié, enfin, en tout cas me concernant, elle est liée à ma vie. C'est-à-dire que oui, il y a comme vous disiez, il y a le travail. En fait, ça permet aussi après d'avoir le plaisir, par exemple comme ce concerto, d'avoir investi énormément de travail, mais avoir le plaisir de se dire « Ah, enfin, je peux jouer en fait une phrase avec 15 notes sans faire une fausse note. » Et on se dit « Ah, qu'est-ce qu'elle est belle cette phrase !» Et ce plaisir, il est là aussi.
À l'occasion du concert « Soyons héroïques que diable » de l'Orchestre de Douai, région Hauts-de-France, rencontre avec Michel Supera, saxophoniste solo, et Maxime Tortelier, chef d'orchestre. Interview, réalisation, Hervé Dujardin pour Radio Scarpe Sensée.
c'est un sujet qui traite de la vie, de la mort, de la jeunesse, de la vieillesse et surtout de l'amour. We are the children.
La puce à l'oreille sur Radio Scarpe 107.